et Stéphane Viau. Salut.
Hey, salut Marc-André.
Content de collaborer avec toi. Je pense que c'est notre première fois à part de ça.
Tout à fait. C'est une première pour toi et moi. Puis je suis persuadé que ça va tout aussi bien aller.
J'espère que ça va aller mieux qu'à Ottawa parce que de ce temps-là, on s'ennuie pas trop à la capitale fédérale.
Non, pas du tout. Ça bouge beaucoup. Écoute, d'abord, le retour de l'Inde du premier ministre suivi du dépôt d'un budget. Puis justement, c'est un peu du budget que je veux te parler aujourd'hui. Mais écoute, on parle de chiffres depuis ce matin, même depuis hier soir, etc. Je ne veux pas l'aborder sous cet angle-là. Je vais te faire une analyse en quatre points. D'abord, politique, économique, financier et administratif, puisque le budget a ces quatre fonctions-là en tant que tel. Donc, si on commence par le côté politique, ce qu'on sait, c'est que c'est un budget qui est progressiste à l'image du Parti libéral, mais cette fois-ci très orienté vers le social, hein, les femmes, les familles, les autochtones, LGBT, etc. Alors, on veut, par le fait même, chercher à neutraliser, à mon avis, le NPD derrière ça, c'est-à-dire mobiliser ces clientèles-là, parce qu'il faut rappeler qu'on est l'avant-dernière année avant l'année électorale. Donc, normalement, c'est un budget qui n'a pas beaucoup de mouvement au plan fiscal, au plan programmatique, etc. Mais c'est un budget qui commence à mettre la table quand même en vue des élections. Et la plus grande menace pour les libéraux présentement, c'est le NPD avec Jack Meeting. Au Québec, ça lève un peu moins, mais dans d'autres provinces, ça lève beaucoup plus. Et le NPD, c'est un pratique sur ces enjeux-là, sont pareils comme les libéraux. Or, si le NPD diffusait le vote des libéraux, ça ferait passer le Parti conservateur en 2019. Les libéraux sont conscients de ça et on est allé courtiser des clientèles qui peuvent se promener entre ces deux partis-là assez facilement. Ensuite de ça, bien toujours sur le plan politique, dernier point, c'est que je fais le constat que le Québec actuellement n'a plus aucun rapport de force à Ottawa. Parce que qu'on le veuille ou non, ce qu'on accorde dans un budget, souvent c'est le résultat de différents rapports de force. Et le Québec, ben là, le Bloc québécois a plus forte raison depuis ce matin. Là, ils ont perdu 7 députés sur 10. Mais même jusqu'à tout récemment, c'était un parti qui était extrêmement faible depuis 2011. Et du côté du Québec, avec le gouvernement Couillard, etc., c'est pas tellement ce gouvernement-là qui soulève beaucoup d'opposition contre les libéraux à Ottawa non plus. Hein, très peu ou pas de demandes du tout qui sont faites. Alors, ça va de soi que le Québec a été négligé. Toutefois, on peut dire qu'on s'en est inspiré pour plusieurs programmes sociaux qui ont été annoncés, en fait, ou planifiés dans l'actuel budget. Au niveau économique, on parle beaucoup depuis hier de la compétitivité des États-Unis puisqu'il y a eu la baisse massive des impôts de Donald Trump et bien entendu de l'ALENA qui, à mon avis, on aura les conclusions, c'est une question de semaine ou de mois là, parce qu'il y a les élections de mi-mandat à l'automne prochain aux États-Unis. Eh bien, l'ALENA, c'était la promesse principale de Donald Trump lors de ses élections. Donc, il va vouloir régler ce dossier-là avant les élections de mi-mandat. Mais on dit que dans le budget, on n'a rien prévu de ce côté-là, ce qui n'est pas fou non plus.
Non?
Mais il faut faire attention. Est-ce nécessaire de le faire pour l'instant? La question se pose.
Il ne faut pas prévoir l'imprévisible, Stéphane?
Ben, autant que possible.
Ouais.
Sauf que on est peut-être mieux aussi de se garder, si on veut, des munitions pour le budget de l'année électorale en 2019.
Ouais, je comprends.
Tu sais, je veux dire, on parle de quelques mois, on parle pas d'une année complète là, à partir du moment que le dossier de l'ALENA sera réglé, etc. Et ça pourrait se régler de façon avantageuse pour le Canada également. Il faut rappeler que c'est surtout le Mexique qui est visé là-dedans. Nous, ça sera des dommages collatéraux en ce qui nous concerne au Canada. Mais on verra les effets. On pourra avoir des effets positifs de ça aussi. Donc, vaut mieux pas aller trop vite. Moi, j'aurais peut-être fait un petit peu justement un fonds de prévoyance là, au cas où j'aurais mis un budget là-dedans. Mais bon, c'est pas une si grande nécessité. Donc, c'était pas là. On verra l'année prochaine. Toutefois, au niveau économique, on a quand même une part du gâteau assez importante qui va pour la recherche. Et la recherche, ça débloque souvent vers des brevets. Et des brevets, ben, si on le commercialise, ça nous donne des avantages comparatifs par rapport à d'autres États sur le plan économique. Donc, il y a quand même là une répercussion économique, disons, à plus long terme qui pourrait être intéressante. Sur le plan financier, écoute, pas de surprise, déficit, mais ça, c'est une question de philosophie.
Oui, mettons, ça me dérange celle-là, honnêtement, Stéphane. Puis je posais la question tantôt à notre collègue François Gagnon, qui est chroniqueur économique, en disant comment ça se fait que tu fais des surplus cette année, que toi et moi, on se dirait parfait, on va prendre ça, on va mettre ça de côté, puis quand on aura de la misère, on traversera un creux de vague, on va piger là-dedans. Le gouvernement Trudeau, lui, est parfait, on fait des surplus, ben on va en ajouter une couche dans le déficit. Ah ouais, donc, toi, il n'y en a pas de limite.
Oui, ben en fait, tu as tout à fait raison. Puis moi, Marc-André, je partage 100% ton avis là-dessus. Je suis plutôt de la philosophie inverse. Quand l'économie va bien, les revenus rentrent, on devra en profiter pour rembourser les dettes, justement, au lieu de continuer à grossir la dette. Et quand ça va mal, là, oui, on s'endette pour investir. Mais de la philosophie inverse qui dit que, puis ça, c'est très libéral, là, le père Pierre-Éliott Trudeau avait appliqué la même philosophie dans les années 70. Là. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand l'économie va bien qu'il faut profiter de la swing pour la rendre encore plus robuste, justement pour le jour où il y aura un contre-coup qui parviendra. Si on est plus robuste, on va mieux résister. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces dépenses-là, il y a aussi des investissements qui pourraient générer de la croissance, notamment tous les investissements en infrastructure. Les investissements sociaux, normalement, dans certains cas, génèrent également de la croissance parce qu'on améliore la qualité de vie d'un pourcentage de la population, etc. Ça, là-dessus, il y a beaucoup de spéculation. Toutefois, c'est difficile à mesurer, j'en conviens, mais c'est une philosophie. Alors ça, c'est la philosophie des libéraux. Puis la philosophie des conservateurs, c'est l'inverse. C'est celle que toi et moi, on partage. C'est-à-dire, quand ça va bien, on devra en profiter pour en mettre de côté. Mais cela dit, le long terme, si on regarde du passé, le long terme nous a souvent indiqué que la philosophie libérale était plus nuisible. On l'a vu dans les quelques récessions qu'on a connues au cours des 20 dernières années.
Ouais.
Et puis, en tout cas, l'avenir, on verra ce que l'avenir nous réservera. Mais sur la dette, toutefois, il faut quand même relativiser. On parle d'une dette qui était aux alentours de 30% du PIB, puis qui baisse année après année, en lien avec le produit intérieur brut, ou si vous préférez, le chiffre d'affaires du Canada, là.
Mm-hmm.
Ou votre revenu, si on prend un particulier, il dit, bon, mais moi, j'ai un revenu, j'ai une dette. Ben, ma dette, elle représente quel pourcentage de mon revenu? C'est ce qu'on appelle la ratio d'endettement. Alors, c'est 30% du PIB, ce qui est nettement inférieur à beaucoup d'États, y compris beaucoup d'États du G20 puis du G7, là. Fait que c'est quand même pas alarmant. On aurait peut-être dû en mettre de côté, mais c'est pas alarmant non plus. Et le déficit en soi, c'est 1% du PIB,
ouais,
qui représente, si on veut, quelques fois de plus que c'est le cas aux États-Unis présentement. Au plan financier, ce que je trouve extrêmement triste personnellement, c'est qu'il n'y a absolument rien pour attaquer les paradis fiscaux.
Ah ben ça.
Pour rappeler que ouais, le Canada, c'est un des pires pays au monde pour ça. Là. C'est nous qui avons le plus d'entente avec différents États pour créer des paradis fiscaux. Là-dessus, on est loin d'être un exemple à donner à l'échelle mondiale. C'est même tout le contraire. Il n'y a rien de ce côté-là. Mais bon, sans accuser personne, on sait que les libéraux fédéraux ont eu beaucoup d'histoires avec ces paradis fiscaux-là ces dernières années. Cela dit, peut-être qu'on veut protéger des relations. Dossier à suivre. Enfin, je te conclue là-dessus.
Oui.
Ben, on abandonne le Phoenix.
Allô? Hey, on vient de réaliser.
Oui, il était à peu près temps en sacrifice. C'est épouvantable. C'est qu'en 2018, on arrive avec des complications comme ça, là, surtout dans la fonction publique de surcroît, là, pas de paye, trop payé, etc. En tout cas, cela dit, tout a été dit là-dessus, mais on a décidé de mettre l'âge dans le programme. Je pense que c'est une sage décision. Il y a quelques programmes qui sont bonifiés, surtout sur le plan social, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de changement majeur, là, pas de création de nouveaux programmes, nouveaux organismes ou abolition, au contraire, rien de tout ça. Ce qui sera intéressant, c'est le budget l'année prochaine, 2019, qui sera un budget électoral, en ce qui est trop fédéral.
Ouais.
Et puis, souhaitons là que l'économie poursuive sa croissance, parce que si jamais il y avait une crise économique avant le budget de 2019, là, justement, à cause des déficits et de la dette, il pourrait être dans l'embarras.
Pense-y, Stéphane. Pense-y, Stéphane. Si je te parle pas de l'année dans laquelle on est, puis si tu n'as pas conscience qu'on se trouve en 2018, là, je te présente un budget, puis je te dis... Égalité homme-femme, ça nous intéresse. On a une bébelle qui fonctionne pas depuis 6 mois, on va la laisser tomber. Puis, part de ça, on va monter cigarette d'une pièce. T'as pas l'impression que c'est un budget d'il y a 50 ans, pas en tout.
Non, pas du tout. Là. C'est vraiment un budget d'avant-dernière année de mandat. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire on ne veut pas faire trop de vagues. Tu sais, ce budget-là, on n'en parlera plus dans quelques jours. Un, j'ai hâte d'analyser, c'est le budget provincial. Toutefois, le prochain budget de Carlos Letao, lui, c'est un budget électoral. J'ai bien hâte de le voir, celui-là. Ceux-là sont intéressants pour les analystes, pour les contribuables, pour tout le monde, mais pour les analystes, sont intéressants.
Ben, c'est ça. On s'est étiré un peu, Stéphane, démêlé rapido.
Ben écoute, je dirais, moi en tout cas, c'est difficile de mettre un mêlé clairement ou démêlé, ça dépend de quel côté de la clôture qu'on se trouve, mais personnellement, à mon avis, ceux qui sont à l'origine de ce budget-là, ce sont les mêlés et les conservateurs, ce sont les démêlés. Mais ça relève de mon opinion personnelle.
C'est bon, merci beaucoup Stéphane.
Fait qu'à une prochaine, Marc-André, c'était un grand plaisir.
Un bonheur partagé, merci, à bientôt.
Salut bien.
Stéphane Viau, notre démêlé du mercredi, que vous pouvez d'ailleurs réentendre sur le site web fm1069.ca dans la section Midi Plus. 13h, bien pile, Julie Grenon s'amène dans les prochaines pour le bulletin d'actualité. De l'heure également, on parlera sport aussi avec Jérémy Filosa pour revenir sur différents éléments qui ont marqué l'actualité sportive. Merci d'être là au 106.9.